Les lutins vous rappellent que si vous n'écoutez pas avec une version Spotify Premium, vous n'aurez qu'un extrait de 30 secondes des chansons. Vous pouvez cependant retrouver la playlist de l'émission en suivant les lutins de l'enfer sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Hey, cette semaine, on a vraiment une émission avec plein de sujets passionnants. On va parler de petits bonhommes. De plus, le lutin haut va nous expliquer la saga d'ailleurs Papa Emeritus. Et puis comme sujet de lutinerie, nous parlerons des collectionneurs de gâteaux et nous parlerons de la mystérieuse crypto-monnaie de Jason Newsted. Tout ça et bien plus au lutin de l'enfer.
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Hey, salutations à toutes et à tous! Bienvenue à ce tout nouvel épisode des Lutins de l'Enfer. Je suis le Lutin O en compagnie des rigolos Lutin K et Lutin D. Comment allez-vous?
Ça va bien.
Bien, merci. Rigolo. Pareil avec les ringolos.
Vous vous souvenez-vous des biscuits rigolos?
Des biscuits rigolos? C'est pas des biscuits avec du crémage de bonhomme sourire, là?
Oui! Il y avait du crémage rouge et du crémage blanc dedans. Si jamais il vous en reste à la maison, vous envoyez ça. Ma soeur, on fait des années qu'on cherche ça.
Oh, mais en tout cas, je doute de la fraîcheur.
Non, c'est pas grave.
Ben, il y a des collectionneurs de tout. Il y a peut-être une collectionneur de biscuits. Comment ça s'appelait?
Rigolo.
Rigolo.
Des biscuits rigolos.
Ben, c'est vrai, il y a même un morceau du gâteau du Prince Charles puis de Lady Di qui a été vendu récemment. Je sais pas si vous avez vu passer ça.
Non.
Il est au frigidaire au congèle ou...
Il est sûrement hermétique.
Ouais, il disait pas l'état du gâteau, mais il y a quelqu'un qui l'a acheté. Fait que voilà, sûrement pas pour un dessert, mais.
Il l'a acheté 20$. Combien il a payé ça?
Ah non, c'est un prix de fou, là. Genre de 1000. J'ose pas avancer je veux dire 3 milliards de dollars.
1000 milliards!
c'est ça.
T'sais, moi, je collectionne, tu sais. Fait que je comprends le. Ah ouais, c'est cool, j'ai un morceau de gâteau. Tu sais, mais une fois qu'il est rendu dans ton étagère chez vous, je sais pas, tu sais,
un gâteau. Moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de cool à collectionner des gâteaux en partant des morceaux de gâteaux, là. À qui tu montres ça? À qui t'es fier? Y a-tu des groupes de collectionneurs de gâteaux? Ils se réunissent dans un centre communautaire, puis au marché aux puces.
Ils font des trades.
Non, j'ai la misère à comprendre les dessous du métier collectionner les gâteaux.
Tu vas chez quelqu'un puis hey, regarde ça, c'est le gâteau du Prince Charles puis de Lady Di. T'es-tu comme impressionné ou t'es ouais, ok, ben bon, va y aller moi.
Ouais, je suis impressionné mais pas dans le bon sens.
Ah ouais, c'est cool. En parlant de collectionneur, j'ai vu passer ça. Je suis déçu de pas être multimillionnaire. C'est dans ces fois-là que je suis déçu. En France, je sais plus trop quelle place. Ils mettent un squelette de Triceratops là, qui va être aux enchères. C'est qu'ils s'attendent à ce qu'ils se vendent autour de 2,4 millions, qui serait un record pour un Triceratops. Mais le record du monde pour du squelette de dinosaure, c'était un tyrannosaure qui était vendu à New York pour 40 millions. Trois fois que genre, ils pensaient pas le vendre. Ils pensaient le vendre en bas de 10 millions. Ça fait que...
La barouette, hein? Est-ce qu'il était complet? Parce que souvent, c'est pas complet. C'est...
Ben, dans le fond, souvent, quand c'est pour les musées, c'est que les morceaux qu'ils ont, ils sont là, mais il y a les moulages pour le reste. Fait que la personne a son squelette complet, mais avec le moulage. Parce que okay, oui, on s'entend qu'un. Oui?
Les moules sont-ils déjà faites ou tu sais, il faut que tu fasses toi-même les os qui te manquent?
T'sais. Non, sûrement qu'ils sont déjà faites ou c'est comme, tu sais, t'as des moules numérotées, là.
Ouais, c'est ça, c'est un kit à assembler vous-même, votre propre.
Oh, mais attends, c'est sûr que ça arrive en pièces détachées, là.
Ouais, j'espère bien.
Après la compagnie de transport qu'il faut qu'ils déménagent ça One Piece, là.
de la misère à déménager des palettes chip One Piece.
Fait que, en musique cette semaine, on n'a pas vraiment de thème, mais
moi, oui.
Un peu de tout. Toi, oui. Ouais, en fait, c'est ça, j'ai hâte de voir le fil conducteur dans tes pièces, parce que c'était, a priori, c'était pas évident.
c'est que je vais commencer. Ben, je vais le dire tout de suite, la thématique est Charlie D'Angelo, qui est le bassiste qu'on va entendre dans presque tous les bands que j'ai là, sauf le dernier, je vous garde à la surprise. Il y a une raison pourquoi que le dernier band est là, même si Charlie n'y joue pas. Mais on va commencer avec Synergy. On en parlait récemment, qu'on trouvait sa plaque, c'est pas sur Spotify. Spotify nous a écoutés. Ils ont remis la discographie de Synergy au complet. Donc, je me suis reclenché ça plusieurs fois pour faire mon Nota Bene. Ça faisait longtemps que je les avais pas écoutés. J'ai vraiment aimé. Puis, ça m'est venu là, l'idée Charlie D'Angelo. C'est que la pièce, on va entendre la pièce Swarm tirée de leur tout premier album Beware the Heaven qui était paru en 1999. C'est un petit projet qu'il y avait avec Jesper Stromblad d'In Flames. Je me rappelle jamais du drummer Kimber Legos qui était avec Dimmu Borgir entre autres et Alex Leo. Donc si vous connaissez pas Synergy, ça va être le temps de vous y mettre. Et ensuite, on va entendre une pièce de Ark Enemy, la pièce Pilgrim tirée de Burning Bridges, qui est leur troisième album qui était paru en 1999. Charlie D'Angelo est encore le bassiste actif dans Ark Enemy. Mais là, je suis allé avec Ark Enemy avant qu'il y ait des petites madames qui chantent. Je suis allé quand il y avait le pas très talentueux Johan Liva qui chantait. Il était là sur les trois premiers albums d'Ark Enemy, puis ils l'ont clairé. Mais fait à noter, lui, il existe encore dans un groupe qui s'appelle Black Earth. Et Black Earth, c'est un band de cover de Ark Enemy. Ils ont sorti deux albums, un album live et un album compilation. Puis le line-up de Black Earth, c'est le line-up de Ark Enemy qu'il y avait dans le temps. C'est avec Amoth, c'est avec... C'est ça, c'est tous les gars qui font des covers de leur propre tonne.
Mais est-ce qu'ils covers le vieux stock ou le nouveau?
Non, ils ont une seule composition, puis sinon, c'est juste leurs trois premiers albums.
Ah ouais. Ouais. Ils n'ont pas le choix d'appeler ça un cover pour être legit dans les droits, genre.
On a une affaire d'avant ça, mais c'était tout le line-up original. C'est que, sûrement, à quelque part, les droits leur appartiennent aussi. Puis vu qu'ils étaient dans le groupe, ces albums-là, les droits aussi. Mais ils peuvent pas s'appeler Ark Enemy parce qu'il y a déjà un autre groupe qui s'appelle d'avant.
Ark Enemy 2.
Ouais, c'est ça. Fait que, mais vous allez comprendre dans le fond pourquoi Johan Liva a quitté Ark Enemy là, puis qu'il s'accroche. Ouais. Disons qu'Angela était d'un calibre vraiment supérieur à ce petit monsieur. Et nous venons d'entendre l'excellente pièce Full Moon du groupe Witchery de l'album Dead Hot and Ready paru en 1999. Donc, je vous ai même remarqué, les trois premiers albums, les trois premières pièces qu'on a entendues, c'est des albums de 1999. C'est une année très occupée pour M. Charlie D'Angelo, on imagine avec les tournées et tout. Parce que c'était tous des groupes qui marchaient, je veux dire, c'était pas des groupes side project genre... qui font pas de show à rien. Pour revenir à Witchery, c'était leur deuxième album. Et c'est un groupe-là existe toujours. Dans le fond, ils ont se rendu à 7 albums. Le dernier part en 2017. Et ils ont dans leur rang le guitariste Patrick Jensen, qui est également le guitariste de The Haunted depuis toujours. Donc, quand même un bon groupe. Et l'album Dead Hot and Ready sur Metal Archive est l'album le mieux coté. Fait cocasse anecdote, comment j'ai eu cet album-là. C'est dans mes débuts de découverte du métal. Et j'avais un chummy au cégep qu'on appelait Nobody. Puis lui, il aimait la musique électro, Vedger, Smooth et compagnie. Puis il avait acheté cet album-là, au hasard, pour essayer de quoi dans le métal. Puis il a pas aimé ça. Fait qu'il me l'a donné. Ça se passe d'Amon Tobin à Witchery, c'est sûr que c'est pas pareil.
Ouais, la marche est quelque chose.
Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est là, je me souvenais d'avoir entendu ça, mais c'est vrai, ça date du temps du cégep.
ouais, ça fait longtemps pour Witchery, donc. Mais ça, l'album est bon. J'ai recueilli l'album, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. J'avais oublié que ça existait parce que je check plus qu'est-ce que j'ai en CD. Je l'ai qui traîne dans ma discothèque à quelque part en bas, là.
On poursuit-tu en petite musique, messieurs?
Rendu là. Tout se met.
Parler
quoi,
de...
Il n'y a rien d'autre qui a marqué, l'actualité. Vous avez pas vu, là, il y a un trailer de film qui n'arrête pas de jouer partout, là, que j'ai pas écouté, Spider-Man?
Spider-Man? Encore un Spider-Man?
Ouais, le nouveau. Toujours des Spider-Man. Ben ouais, il paraît que le preview est très très bon. Moi, je l'ai vu, dans le fond, j'ai vu le preview via des memes, là, je crois. Donc, les memes sont très très bons, mais j'ai pas vu le preview en animation, en action. Mais il paraît qu'il y a les trois Spider-Man dedans.
Ah ouais?
Ben, Tobey Maguire, Andrew Garfield puis Tom Holland. Ouais, les trois. Puis là, tout le monde espère la fameuse scène que les trois Spider-Man se pointent. Il faut que ça ait lieu dans ça. On voit souvent circuler ça comme meme. Ouais, puis même des méchants, il y a des méchants qui reviennent. Là. William Dafoe a repris son rôle, j'ai entendu dire. On va voir.
Alors, Spider-Man aussi, ils font des multiverses. Il y avait le film animé qui était quand même était pas mauvais, le film animé.
Moi, je l'aimais, le film animé. J'y allais de reculons, puis finalement, j'ai eu du fun à l'écouter. Mais tu sais, c'est parce que dans les previews, ils montraient souvent le cochon Spider-Pig.
Ouais.
Puis il est plus dans les previews que dans le film. C'est que, moi, c'est pour ça que j'avais peur, là. Que, ah non, il va être là tout le long, ça sera pas le fun. Puis non, finalement.
En ratio, il est plus souvent dans le preview. Parce que le nombre de minutes, forcément, elle peut pas excéder, là. Moi, qui avais fait des scènes additionnelles juste pour le preview.
Ben, peut-être, ben, des fois, ça part de même. Je sais pas, vous rappelez Scrat dans Air de glace, l'écureuil, là, qui court après son gant tout le temps.
Ouais, il a eu son film.
Ouais, ça, il a eu son film, puis on s'entend, c'est un petit comique d'animation au début, là, qui était quand même très comique, là, mais ouais, il a eu son propre film. À quand, la série télé avec des vraies images de capture, pas l'image de synthèse, là, tu sais.
Comme le Roi Lion, mais version Scrat.
Scrat débarque à New York.
Aïe, aïe.
Ben, c'est le fun des films d'animation. Il y en a peut-être des fois qui ont peur de se faire juger quand ils disent « Moi, je regarde des comics. » Moi, je le dis depuis le début du podcast, j'aime ça des comics. Fait que, films d'animation aussi, mais des fois, c'est ça, c'est un petit peu long. Là. J'aime mieux les petites 30 minutes. Là. Tu passes plus vite à autre chose.
Ben la dernière fois, vous m'avez proposé un épisode de Mickey Mouse qui dure comme 10 minutes.
Oui, je l'ai réécouté cette semaine.
Et puis, c'est vrai, on avait parlé. Ben, tu m'as pas dit comment tu l'avais trouvé.
Ouais, c'était vraiment drôle. T'sais, c'est vraiment filmé comme un épisode d'horreur, là, entre autres. Ben, juste pour résumer aux auditeurs, c'est... La prémisse, c'est Donald Duck et sa copine, Daisy Duck, qui sont tout le temps en sortie de couple avec Mickey et Minnie, mais on dirait qu'ils sont un peu tannés. Fait que là, ils essayent de...
Les sorties les
épuisent. Ouais, c'est ça. Parce que Mickey, ils sont tout le temps, « Ah, on fait du parachute, on fait ci, on fait ça. » Puis Donald, il est plus capable. Fait que là, il essaie d'avoir une soirée seule. Fait qu'il calme malade. Mais
mauvaise
là...
idée, hein.
Mickey et Minnie arrivent pour les soigner. Mais la prémisse, c'est vraiment comme c'est tourné comme un film d'horreur. Là. C'est vraiment drôle.
Ah, il se cache.
De bons gars.
Il se cache dans la maison, puis Mickey et Minnie les cherchent pour donner du sirop.
Les soins, ouais, Mickey se promène, puis il tape sa petite. Avec sa cuillère, il tape sur le verre. C'est l'heure de tomber. Il dit comment? Et puis c'est super creepy. La petite chanson de Daisy dans le grenier, là.
Ah ouais. C'est comment est-ce qu'il s'appelle l'épisode?
Rien que tous les quatre. En français, je sais pas c'est quoi en anglais.
Just the Four of Us. Si vous avez accès à Disney+, c'est le meilleur épisode de Mickey que j'ai vu de ma vie.
Quand même difficile à trouver d'un sens, parce que c'est avec les genres de Mickey drogués un peu, là, c'est pas les genres de Mickey trop charmants. T'sais, Dingo, il a vraiment l'air d'un SDF là-dedans. puis ça sont un peu plus creepy et tout, les comics là, sont le fun. Mais dans le fond, quand vous checkez dans votre menu de Disney, dans animation, je sais que le menu est tout sauf intuitif, là, mais puis l'animation, tu vas en bas, il est dans la dernière rangée, puis c'est celui qui a une seule saison, parce qu'il y a plusieurs genres de Mickey de cette vague-là, mais ils sont divisés bizarrement là, sur Disney.
Ouais, c'est pour les un peu plus grands. C'est... Vous comprenez les références à d'autres films, là. C'est drôle.
Ben, tout le monde, dans le fond, c'est ma fille qui nous a fait découvrir à la base. Tu sais. Ça reste que ça vit des enfants parce que c'est ouais. pas comme des Happy Tree Friends, mettons. Là.
Aïe, aïe, aïe.
Non. Happy Tree Friends, ça, c'est le fun. Je sais pas s'ils en font mm-hmm. encore. Ça fait des années.
Probablement, je sais pas. Mais je sais qu'Olivier, toi, je pense que ta fille, elle regardait ça à la garderie.
Ah oui, j'étais pas de bonne humeur. C'était l'Halloween. Oh, on va faire un spécial Halloween. Tu débarques à la garderie, aller chercher les enfants. Ils sont tous assis en rond. Ils écoutent Happy Tree Friends. Êtes-vous malade? Ma fille peut bien être angoissée. Mm.
C'est dommage parce que le concept d'Happy Tree Friends, c'est vraiment, c'est tout mignon. T'sais, c'est Saint-Charles. T'sais, quand Saint-Charles rencontre le métal.
Les origines de Saint-Charles. Oui.
Mais là, on continue en métal.
Okay, j'ai décidé, je suis tombé, j'ai trébuché sur des bandes dernièrement. Et je me suis enfargé, puis je suis tombé sur Bénédiction, un band légendaire anglais que je ne connaissais pas. Ils ont sorti un album en 2020, Scripture, qui est vraiment super bon. J'ai choisi la pièce Iteration of I. Cet album-là, c'est un bon mélange de old school puis de new school. Fait que si vous aimez le vieux Death, vous allez aimer cet album-là. Puis il a fait chaud dernièrement, hein, canicule et tout le kit, fait chercher une façon de me refroidir l'âme. Je suis tombé sur Frozen Soul, un album Crypt of Ice qui est sorti en janvier 2021. Super de bon album Death avec Carl me dit une voix caverneuse.
Ouais, il a l'air de chanter d'un fond de crypte, justement. Là.
Mm-hmm. Ça fait du bien de voir qu'il y a des nouveaux bands qui reprennent un bon vieux son Death. Okay, moi, j'ai trouvé l'album très très bon. C'est ça. T'auras pas chaud avec cet album-là, c'est sûr et certain. On va écouter ça. J'ai choisi la pièce Wraith of Death au lutin de l'enfer. On vient d'entendre la pièce Pas d'entrailles, pas de gloire du band du lanceur de boat. L'album Mercenaire en 98. Bolt Thrower, no guts, no glory. J'aime mieux lanceur de boat que lanceur d'Hitler. Je trouve que ça.
Ouais, plus... ça fait un gars d'une chope qui pète sa coche puis il tient des poignées de boat par la tête de tout le monde. Tu sais, le gars de Puro arrive, c'est les gars, paf, pogné de bolt dans la face. C'est gratuit, mais bon.
Ouais, je trouve que ça fait plus violent.
Ah, je viens d'avoir un flash. Tu sais, en parlant de choses violentes et gratuites, là, ça s'est jamais fait, là. Dire, mais pogner un slingshot, puis un hamster, mettons. Puis là, tu parques sur un balcon. Là, il y a quelqu'un qui arrive en décapotable qui fait son stop. Tac! L'hamster d'en face. Hey, tu dois faire le saut.
Il y a une vidéo assez drôle de... Ils ont fait ça, mais avec un écureuil. Mais là, c'est pas un slingshot, c'est comme un genre de catapulte.
OK. Ah ouais.
L'écureuil, il va là, tout innocemment, puis en venant, tu le vois juste... Pouh! Il repart du champ, c'est malade.
Ah, mais là, ils l'ont fait pour de vrai, nous. C'était de l'image.
Ouais. Mais tu sais, il y a...
Moi, je ferais pas ça des écureuils.
On voit pas l'atterrissage, mais tu sais, comme tel, ça a pas l'air si pire pour l'écureuil. Mais les vidéos montrent pas la fin de l'histoire, malheureusement.
Ben, c'est quand même tough, un écureuil. Un autre chum de gars, lutin Y, lui, il y avait Patmol qui traînait dans son ghetto. C'est un écureuil qui avait le bassin pété. Ça fait qu'il pouvait juste le déplacer avec ses pattes d'en avant. Il paraît que c'était spectaculaire de voir planté en bas de son arbre. Là, quand... Mais les chats du quartier l'ont tout repéré. Et Patmol n'a pas subsisté bien longtemps.
Non.
Mais c'est une légende, Patmol.
Ouais, ouais.
Ouais, fait que c'est ça. Je sais pas si vous avez pogné le vidéo que, en parlant de vidéo YouTube, voilà. Avez-vous écouté la vidéo que j'ai postée sur Nickelback? This is how you remind me of someday.
Alors, c'est ça, moi, ça faisait des années que je l'avais pas écouté. C'est malade, là. Retournez le voir. On avait parlé qu'on allait le mettre, là. Allez-y. Que vous aimez ou vous aimez pas Nickelback, ça vaut la peine. Si vous les aimez pas, vous avez des raisons de plus pour pas les aimer. Puis si vous les aimez, vous allez être vraiment content. Vous allez entendre deux tunes pour le prix d'un.
Nickelback, tu mets toutes les tunes une par-dessus l'autre. Tu peux écouter leur discographie en 5 minutes.
Un best-of, tu sais, t'as juste une track.
On sait que dans Nickelback, Dimebag Darrell avait été guitariste pour Nickelback en show là, uniquement. Là, il n'était pas sur album, mais oui, il avait remplacé. Donc, mais le premier album de Nickelback, je veux pas aller les défendre à rien, mais ça sonne pas comme l'extrait le Remind Me. Là. C'est un peu plus metal. On dirait aller comme Black Album. Là, mais...
Il n'était pas signé sur Metal Blade?
Oui, non, ils sont sur Roadrunner, Nickelback.
Ah, quand même.
Parce qu'à l'époque, là, peut-être qu'ils sont rendus sur Metal Blade, mais avant, ils étaient sur Roadrunner.
Je pensais qu'à l'époque, ils étaient sur Metal Blade, mais non. Roadrunner, mais au départ.
Ils font plus d'albums, par contre. Ils en font-ils encore?
Ah, il n'y en a aucune idée. Qui connaît? Je connais personne. Je connais beaucoup de monde qui déteste Nickelback dans mon entourage, mais personne qui se tient au courant de leur discographie, là.
Ben, il avait sorti une toune, me semble, qui mettent des fois d'un game de sport. Là, comme, ils font un montage de monde qui se rentre dedans. Là, puis, il y a une ou deux tounes qui est propre à ça, mais.
Ouais, les X-Games, là. Les trois X-Games, le monde se rentre dedans avec Nickelback.
Ouais. Mais ces deux pièces-là, là, c'était vraiment. Quand tu les écoutes côte à côte, un, le drum se confond. Tu sais, les petites pré-refrains ben, embarquent en même
là,
temps.
C'est ça.
C'est terrible.
Ah, c'est fou. Ouais.
Ils ont fait copy-paste.
Du Chad Kruger à son meilleur.
Yeah! OK, en tout cas, un band qui font pas beaucoup de copier-coller, c'est comme Nickelback, Ghost. Je vous ai préparé un triplet de Ghost parce que j'avais de la misère. Ça fait longtemps que je veux en jouer, mais j'ai de la misère à les placer avec autre chose, fait que... Allons-y, triplé Ghost. Ghost est un band de la Suède qui a été formé en 2008. Ils ont 4 albums à leur actif. Puis c'est un band particulier, si vous ne les connaissez pas, ce qui serait surprenant. Mais c'est un band formé de membres anonymes. Maintenant, on sait c'est qui, mais je vais en revenir à ça. Au début, donc les musiciens sont des Nameless Ghouls. Ils ont tous un masque et un costume quasi identique. Il n'y a rien qui les différencie vraiment. Et le chanteur.
Des jobbers.
Hein?
Des jobbers.
Ouais. Ça pourrait être des roadies quasiment. À part le. Il y a juste le chanteur que lui a un style un peu plus particulier. Son déguisement, c'est un déguisement de pape. Il s'appelle Papa Emeritus. Et il y a toute une séquence. Il faut que je vous raconte ça. C'est assez incroyable. Donc. Leur premier album, c'était en 2010, Ritual, c'était Papa Emeritus 1, qui était là de 2010 à 2012. Ensuite, Papa Emeritus 2 est arrivé de 2012 à 2015. Ensuite, en 2015, Papa Emeritus 2 a été congédié parce qu'il n'a pas réussi à renverser les églises et le gouvernement comme il était supposé. Alors, son plus jeune frère, Papa Emeritus 3, est arrivé. Et ça a l'air qu'il y aurait juste 3 mois de différence. Alors, il est arrivé, il était là dans le groupe de 2015 à 2017. Mais par contre, en 2017, à Gothenburg, Papa Emeritus 3 a été retiré du stage. Puis ces deux gros gars qui sont arrivés avec des gardiens de sécurité qui l'ont escorté. Et là, c'est Papa Emeritus 0 ou Nihil qui se fait appeler aussi, qui est arrivé. Lui, il est beaucoup plus vieux, il se promenait avec une marchette puis avec une tankard ici chaîne. Puis, ça, en fait, on a appris que c'est l'ancêtre des autres papas. Alors, c'est ça, lui, c'était comme le maître derrière tout ça. Puis, en parallèle, le band a fait un vidéo avec qui montrait un personnage qui est en train de critiquer le vocal des deux autres papas éméritus. On a appris que c'est le cardinal Copia qui a pris les vocales de 2018 à 2020. Et le cardinal Copia décrivait un peu la situation comme dans Star Wars, il y a toujours un maître et un apprenti. Alors, Papa Emeritus Nihil était le maître et cardinal était l'apprenti.
L'apprenti.
Le et finalement, Padawan. dans un des derniers shows avant la pandémie, en 2020, Papa Neil est tombé reine mort. Il n'en pouvait plus. D'ailleurs, il faisait des solos de saxophone des fois. Mais finalement, le cardinal Copia est devenu Papa Emeritus IV. Et ils en sont là en ce moment. Et c'est Monsieur IV qui est le frontman du band. Évidemment, c'est...
Il y a eu 5 chanteurs.
1, 2, 3... Ben, Neil n'a jamais chanté, je crois. Il a fait un solo de sax, mais... C'est Cardinal Copia qui chantait.
OK.
Mais évidemment, c'est Tobias Forge qui est derrière tous ces personnages. Puis c'est drôle parce qu'on a appris son nom juste en 2017 parce qu'il y a des... Il y a des poursuites qui ont circulé. Des membres des Nameless Ghouls qui voulaient une part du gâteau, faut croire. Parce que toutes les chansons étaient créditées à A Ghoul Writer. Fait que c'était vraiment un band 100% anonyme jusqu'en 2017.
Alors, un groupe à numéro.
Ouais, pratiquement. C'est d'ailleurs très drôle parce qu'à la fin du show, ils font souvent, ils annoncent les membres, tu sais, comme ils font, tu sais, à la guitare, un tel. Mais là, ils sont, je pense, sont 6 ou 7 qui jouent live, puis c'était tout le temps. Et à la guitare, Ghoul! À la bass, Ghoul!
Une bonne main d'applaudissement pour le drummer Ghoul.
Ghoul! Et au clavier, Ghoul! Ouais, c'est un show à voir. Il donne un très bon spectacle. Nos amis de Ghoul.
Je ne les ai jamais vus en show. Ça n'a pas donné.
Ah, ça vaut la peine.
C'était pas le show que j'avais organisé que je te parlais?
Ouais, j'ai une anecdote là-dessus, on en parlera au retour du bloc.
C'est bon. En musique, donc, ben, je suis allé avec une pièce de trois albums. Il y a le deuxième que j'ai un peu moins aimé dans les albums de Ghost, il est un peu moins punché, j'ai l'impression, un peu plus prog. T'sais, dans le premier, il y a des bonnes riffs. Dans le deuxième, ils ont plus exploré des sons de clavier un peu.
Moi non plus, j'aime pas trop le deuxième, j'avais été déçu.
Puis c'est ça, j'ai même l'impression que le quatrième sont allés un peu dans les vagues du deuxième. Fait que le premier puis le troisième, je les ai beaucoup aimés. Deuxième, quatrième, un peu moins. Fait qu'on va voir ce que Papa Emeritus IV va nous donner. Fait que la première pièce qu'on va entendre de leur premier album, Opus Eponymous, la pièce Ritual, un de leurs classiques. Et la deuxième, une de mes préférées de l'album Meliora 2015, From the Pinnacle to the Pit. Alors, on écoute 3 pièces de Ghost au lutin de la peur. C'était la troisième pièce du triplé de Ghost avec une pièce de leur dernier album Prequel. Ils ont sorti un EP aussi entre-temps, mais ça, c'est leur dernier album complet, Prequel, en 2018, avec la pièce quand même connue, Rats. Quand même très bonne.
Mm-hmm. Possible. J'ai pas écouté beaucoup Prequel. Pourtant, j'avais bien aimé Meliora, mais je sais pas, on dirait que j'ai moins... Je vais moins donner attention, mais bon.
L'album commençait bien, mais vers la fin de l'album, c'est un peu dur à suivre, je trouvais.
Il y a des groupes de même, que, un album, tu découvres, t'aimes ça, puis après ça, tu sens que le band devient moins bon ou rien, l'intérêt il est juste moins là aussi.
Mm-hmm.
Lutin D, t'avais une anecdote à propos.
Ben oui, en Ghost. Fait. Dans le fond, je les ai vus en show. Je les ai vus en show avec toi, en fait.
Ah oui, c'est vrai. T'étais là.
Plusieurs années. Et puis, je pense que c'était quelque chose comme 2 jours après la naissance de ton petit dernier. Le show, quelque chose comme ça.
Dans mes archives, je vois que c'est le 11 novembre. Fait que. Ouais, mon fils avait 3 mois environ.
Ça faisait pas, en tout cas, ça faisait pas super longtemps. Et puis, fait qu'on est arrivé là. Et puis, la première partie, tu m'as dit le nom de la fille, j'ai déjà oublié.
C'était Marissa Nadler.
Mmh. Fait que c'était dol, c'était long et plate. Fait que toi, t'étais comme en mode party. Fait que paye des gin tonic, paye des gin tonic. À un moment donné, je me dis, OK, je paye des gin tonic moi aussi. Là, on a bu toute la soirée. Le show était vraiment très bon. Mais on avait bu. Moi, je suis sorti de là. Puis j'étais déjà un peu garlot. Puis on était allé rejoindre Carl et Vanet au Foufoune électrique. Puis ben, on s'est assis à une table. Puis quand t'as callé une bière, puis quand la serveuse te l'a mis devant toi, tu dormais. Fait que c'était. De... C'était de toute beauté, mais ça avait été bien le fun comme show.
C'est peut-être pour ça que je m'en rappelais un peu moins.
Ouais.
Ouais, la soirée au four. Ah,
les premiers mois de naissance, pas facile.
Mm. Ouais, un show particulier. J'avais organisé le show, mais j'avais pas acheté mon billet.
Ouais.
Mais bon, je suis pas mal pris à Montréal. Il y a quand même d'autres choses à faire à Montréal. Là, mais ouais, ça fait que ça a été... Une belle soirée de mon bord et vous, ça avait été très agréable, là, ça paraissait.
Mais le show était vraiment très, très bon. Là. C'est des bons showmen, puis ils ont le tour de faire lever la foule. Ils avaient été très, très bons.
Leur pire défaut, c'est d'être capable de trouver des premières parties. Là. Celle-là était terrible. Puis l'autre show que j'étais allé voir un peu plus tard, à la Place Belle, il n'y avait même pas de première partie. Ils ont même pas essayé.
Au moins... Quitte à souffrir pendant trois quarts d'heure de temps, tu te dis, bon, on va les faire attendre. Ouais, on va mettre du marimé, un playback, ça va finir là.
Un concours de talent amateur. Ouais, ben, on était avec un showman et moi, je vais passer un peu avec ça. Merciful Fate, je parlais de mon Charlie D'Angelo. Eh bien, Charlie D'Angelo avait été également le bassiste de Merciful Fate. Nous, on va entendre une pièce, la pièce Nightmare by Thy Name, parue en 1994, c'était leur quatrième album. Et ce que je ne savais pas, c'est que tu sais, je connais Merciful Fate, je connais King Diamond, mais tu sais, pas tant que ça. Merciful Fate est plus vieux que King Diamond comme groupe. King Diamond, c'est plus jeune, plus pimpant, je ne savais pas. Donc, ceux qui sont comme moi étaient dans l'ignorance, maintenant le savent. Et ceux comme le Lutin D me regardent d'un regard qui juge.
Non, mais je juge pas, je le savais. Mais je suis surpris de devoir sortir du Merciful Fate. As-tu écouté l'album au moins?
Pas encore. Je suis allé avec la toune d'ouverture de l'album. Là. J'ai trouvé que c'était une très bonne pièce. Là. Mais sinon, je l'ai mis dans ma liste de trucs à écouter cet album de Merciful Fate. L'autre groupe de Charlie Angelo qu'on va entendre, c'est The Night Flight Orchestra.
Ça, c'est weird.
C'est hein?
Moi, j'ai trouvé ça weird et je m'attendais pas à ça.
Je trouve que c'est très années 80 dans son style, dans la construction. On va entendre la pièce White Jean. C'est tiré de l'album Aéromantique 2 qui n'est pas encore paru. L'album paraît le 3 septembre, mais il y a déjà trois singles qui sont apparus. J'ai écouté les trois singles, j'avais pris White Jeans qui m'avait le. J'ai trouvé que c'était le meilleur, mais je voulais mettre du Charlie D'Angelo. Moi, ça ne vient pas nécessairement me rejoindre comme public. Et là, le Lutin Haut se demandait beaucoup, t'es où le lien? C'est qu'il y a deux membres de ce groupe-là, de Night Flight Orchestra, qui sont dans Soul Work. Il y a le guitariste...
Ben oui, j'ai reconnu David, Speed.
C'est ça, il y a David Anderson, le guitariste, et Bjorn Strid, le chanteur. Ça fait que... Ouais, je savais qu'il faisait des affaires poches parce qu'il avait joué dans Sonic Syndicate, là, une toune, un chanteur invité, puis pour moi, ça a donné à piqueur de faire des affaires pas bonnes. Fait que j'ai pas vraiment aimé Night Flight Orchestra, je ferai pas de cachette, là, mais fait que c'est ça. Mais Charlie D'Angelo est dans ce groupe, et c'est un groupe qui est encore actif. C'est leur sixième album.
Ça a un style.
Oui, ça a un style, en effet. Un style qu'on pensait mort et enterré. Toi, Dee, t'as bien apprécié?
J'ai pas toffé au complet. Je trouvais qu'il y avait des bons éléments. Au début, c'est un peu plus beaté côté git, le kit, mais le vocal est venu me tuer. Puis j'ai pas reconnu que c'était le chanteur de Soulwork. Non, c'était trop années 80. J'avais le film, c'est quoi, pas Kung Fu, comment ça s'appelle, le gars qui se bat contre full nazi. Hein.
Kung Fury.
Kung Fury, ouais, j'avais ça dans la tête. En écoutant la toune. Bon.
Avec la toune de David Hasselhoff.
Ah, c'était bon, ça, quand même. Kung Fury, c'était rigolo.
Ouais. Donc, à écouter sur une cassette.
On va l'entendre du très bon King Diamond et du très mauvais Night Flight Orchestra au lutin de l'enfer. Et nous venons d'entendre Terreur 2000 avec le même chanteur que le Tom Platt juste avant de Flight Night Orchestra, Bjorn Strid, qui était et le chanteur de Soulwork et le chanteur de Terreur 2000. Ça, le groupe existe encore, mais ils n'ont rien sorti depuis 2005. Mais la pièce qu'on vient d'entendre, Son of a Gun, Daughter of a Shotgun, était tirée de leur tout premier album, Slaughterhouse Supremacy, paru en 2000. Ça fait que ça fait fin à mon... hommage à Troy D'Angelo et une pause par la bande à Beyond Street qu'il a fait mieux dans sa carrière que Night Flight Orchestra.
Ben, il y a des bons vocales, on peut lui donner ça. Il réussit à avoir le style années 80, il fait du mélo death.
Moi, c'est un bon chanteur, mais je l'aime mieux quand il chante de façon agressive et convaincante que chanson que tu chamais avec David Hasselhoff. C'est Corey Hart, c'était la semaine passée.
Ça beach de Baywatch.
Bjorn avec son short rouge, sa planche de surf,
sa petite bouée rouge, il va sauver la veuve et l'orphelin sur la plage de Malibu.
Hey, ouais, Lutinka, tu m'as prêté la bande dessinée de Harley Quinn.
Oui.
Alors, mes petits lutins, sortez vos monocles, c'est l'heure de parler de livres.
J'ai passé au travail de tout ça, je pense, en deux jours. Vraiment super bon.
Ouais, c'est une bonne. Je sais que Lutin D l'a acheté également.
Ouais, je l'ai acheté. C'est la première BD, habituellement, Carl May Price. C'est la première BD de la série DC que j'achète. J'ai trouvé très, très bon. La BD s'appelle Arlene. C'est dans quelle série, Carl?
C'est les Black Label de DC. C'est des histoires, dans le fond, uniques, sans conséquences, sans lien entre les uns et les autres. C'est souvent des auteurs plus du terroir. Là. Ils font des petites terrines, puis ils font leur haut de grugeot en même temps. Là. Mais ils font des projets comme ça qui les intéressent.
Ben c'est quasiment le style qui m'intéresse plus parce que tu m'as aussi prêté Metal, qu'elle, j'ai eu plus de difficultés un peu parce que c'est ça, ça revole partout. Là. C'est très difficile à suivre, je trouve.
Et pourtant, c'est quand même comme d'un début de la série. Là.
Ah ouais, pour vrai.
Mais il y a un background avant quand même, veux dire, pour le New 52. Mais c'est comme la série Metal qui commence vraiment avec le numéro que je t'ai prêté. D'ailleurs, le meilleur gag là-dedans, tu sais, Batman qui a une cachette secrète dans sa Batcave secrète. Là.
il y a une Batcachette dans la Batcave secrète. Ouais, mais c'est ça, quand ça embarque dans univers parallèles pis tout ça, c'est la même chose. J'avais emprunté aussi Justice League à la bibliothèque, pis c'est la même situation, qu'il y a beaucoup de personnages, tu sais, ça passe du coq à l'âne.
Ben là, je viens de me ramasser une nouvelle batch de série, puis j'ai pas une, c'est Batman versus le Pingouin. Puis à date, ça, il y a plusieurs personnages, mais tu sais, ça reste que là, c'est juste dans l'univers de Batman, c'est qu'on les connaît, mais c'est toujours le fun qu'il y a des personnages de même qui viennent agrémenter l'histoire.
Ben, Injustice, j'ai quand même aimé parce que je trouvais que l'histoire était plus linéaire un peu, tu sais, plus facile à suivre.
Injustice, j'ai pas, tu sais, dans le fond, tout ça, lui, les livres 1 et 2, finalement.
Ben, juste le 1. Celui que je t'ai prêté. Ouais, celui que tu m'as prêté.
Ben, si celui que je t'ai prêté, c'est le 1 et le 2, dans le fond, réunis en un livre. Puis oui, tu sais, c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, Justice. Là, faudrait que je me donne, mais c'est quand même une série en 12 ou 13 volumes. Il y a deux saisons. Ça fait qu'on tombe avec 25-26 livres. Il va acheter. Ça commence à faire beaucoup, là.
Ça monte vite.
Ouais, en effet.
Ben, il y a le jeu vidéo aussi qui est calqué un peu sur la BD, j'imagine, ou vice-versa, je sais pas.
Oui, ça va ensemble. Je crois que le jeu est arrivé après la BD, là, mais ça va ensemble. C'est des trucs complémentaires.
Il y a de l'histoire dans un jeu de baston.
Ouais.
Oui, il y a toujours eu de l'histoire dans un jeu de baston. Dans Street Fighter, les gars se battaient dans la rue. Dans Mortal Kombat, les gars se battaient à mort.
J'arrive jamais à passer le premier d'un jeu de baston, fait que je sais pas s'il y a de l'histoire là-dedans.
Ben, Injustice 2, j'avais pas joué au 1, mais au 2, l'histoire était vraiment le fun. J'ai accroché au jeu à cause de l'histoire.
Ah, OK.
Ouais, parce que moi, je les ai essayés. Ils sont sur PlayStation Nord, puis je suis vraiment pas bon, moi non plus. C'est ça qui m'a fait abandonner le jeu, mais je trouvais ça cool. Comment que les combats. Tu sais, il y a l'histoire, puis les combats sont amenés dans l'histoire. Ouais. C'est vraiment nice. Là.
Mets ça au plus facile, là, puis fais-toi pas suer avec ça, puis non, mais... l'histoire vaut la peine.
Même au plus facile, je viens à bout de frustré, fait que... Jeu de combat, pas pour moi. Ça fait sortir le démon en moi, là. C'est incroyable. C'est la chose qui vient... Je sais pas pourquoi. Je vais jouer à Mortal Kombat, pas. Là. Je veux 5 minutes, là. Je vais être en tabarnak. Il faut pas que je joue. Je comprends pas.
Mais tu joues à des Die and Retry, y en a pas de problème.
Oui, je vais jouer à Céleste, là, puis pas capable de sauter le maudit trou puis la maudite plateforme pendant 20 minutes de temps, m'en mourir 75 fois, je m'en fous. Mais jeu de combat, je me fais taper sa gueule, et là, je comprends pas ce qui se passe, et je retiens pas mes combats. À Steve Pagninaire, non. Pas fait pour moi.
Moi, j'aimais mieux quand c'était en 2D, les jeux de combat. J'ai l'air d'un vieux là-dedans, mais... Je trouve que quand ils ont intégré le 3D, la première fois que j'ai joué à un jeu 3D, c'était Virtua Fighter au Sega Saturn. Et c'est. T'sais, à chaque fois que tu kicks à côté de l'autre, là, parce que t'es pas aligné dessus. C'était pas. C'était tannant. C'était tannant, on va se le dire. Là.
Ça vient confusant.
Ouais, un peu. Donc, on poursuit en musique?
Bien sûr. Je suis allé dans des. Je suis allé chercher deux tunes de retour de band. Comment on dit ça? Des bands qui faisaient longtemps qu'ils n'avaient pas fait de Muse. Et qui sont revenus. Les comeback, voilà.
Les Mortal Comeback.
Oh!
Oh! Le lien.
Parce qu'ils sont mortels, naturellement. Ben, en tout cas.
De ce qu'on ennui mortel?
Non, vraiment pas.
Parce que moi, le jour que Flight Night Orchestra font un retour, tu sais, c'est un Mortal Comeback, là.
Ben... Ils feront pas de retour, ils s'en iront jamais.
Ouais, ben ils sont en 6 albums puis Björn ne veut pas cesser de chantonner.
J'ai décidé d'y aller avec une pièce de Accept, un band qui est des années 80, qui avait arrêté dans le milieu des années 90, puis qui sont venus en 2010 avec l'album Blood of the Nations, que c'est Lutinka qui m'a fait écouter à l'époque. Puis je suis resté surpris, j'avais vraiment aimé ça. Sinon, Accept, à part Balls to the Wall, puis peut-être une autre pièce que je ne connaissais pas vraiment, puis j'avais pas plus d'intérêt que ça. Puis depuis leur retour, je pense qu'ils sortent un album aux 2 ans, depuis 2010, là, fait que ça va quand même très bien pour eux. Fait que j'ai pris la pièce d'ouverture.
C'est-tu pas mal le même line-up?
Le line-up a pas mal... Dans le fond, j'ai regardé cet album-là comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. Puis il reste le chanteur et le guitariste fondateur du groupe. Puis le chanteur, okay. Dans le fond, qui est là depuis le retour. Sinon, avant, c'était Udo qui chantait. Mais quand ils se sont reformés en 2010, c'était tout avec des membres qui avaient déjà été dans Accept avant, à différentes époques. Il y en avait qui étaient fondateurs, okay. Il y en avait d'autres que non, mais c'était tous des gens d'Accept. Là, à Star, ils sont tous partis... À l'exception du guitariste M. Wolf quelque chose. Mon Wolf de quoi? Puis sinon, Elle, dans le fond, c'est un band. Cet album-là, ça a été leur retour, mais ça a été aussi leur premier album. Parce que je pense que le chanteur d'époque s'était suicidé après avoir été signé pour la première fois. Puis finalement, l'album n'avait jamais vu le jour. Et, dans le fond, cet album-là a vu le jour en 2011, mais c'est un band des années 80 là, qui faisait partie... du New Wave of British Heavy Metal. Fait que moi, j'aurais bien aimé cet album-là. Côté vocal, c'est un peu... c'est un autre style, il faut s'y faire, mais moi, j'aurais bien aimé cet album-là. Fait que Human Remains, j'ai pris la pièce On Earth As It Is In Hell, puis c'est aussi la pièce d'ouverture de cet album. Allons-y.
Allons-y.
On vient d'entendre la pièce Ashes in Your Mouth de Megadeth. Ça a été la pièce qui m'a fait aimer Megadeth parce que j'ai écouté c'est Big qui m'avait fait écouter le show Rude Awakening.
La pochette était hors du show.
Ouais, la pochette, une super belle pochette. Allez faire un tour Rude Awakening. Allez faire un petit tour sur Lennox, vous allez trouver ça facile. Puis le solo, en fait, les deux guitaristes, la façon qu'ils jouent, la bass qui cale le solo, puis ils jouent en même temps, en fait. Et puis j'avais trouvé ça vraiment impressionnant. Puis la tune me restait dans la tête, fait que finalement, je me suis mis à écouter. L'album s'est tiré de Countdown to Extinction en 92, qui se trouve à être le Black Album de Megadeth.
Ouais, c'est l'album que tout le monde avait à l'époque. T'achetais des Smarties, il venait avec une boîte de Smarties.
Mm-hmm. Ouais, je viens de voir la pochette, ça n'a pas l'air commode comme lit.
Non, c'est bien, on va le dire pour ceux qui sont trop lâches pour aller checker. C'est un gars dans son lit, puis il est clairement en chute libre d'un building vers une rue.
Je sais pas si c'est un lien avec le clip d'Enter Sandman.
C'est dans les mêmes années, hein?
Ben oui, parce que Enter Sandman, ça finit pas que le lit se fait ramasser par un Diro, un enfant d'homme.
Ouais. Ben, le petit monsieur, il court en avant.
C'est ça. Peut-être un lien, ça serait dans le style à Dave, en plus, de niaiser ses bons amis de Metallica.
Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai jamais été un fan de Megadeth. J'ai vu une moitié de show d'eux autres en main event. Là, je m'étais poussé avant parce que j'étais écœuré. Là, mais c'était surtout pour Mother Red là, que je m'étais déplacé ce soir-là. Mais ça, il y avait Megadeth, Mother Red, Volbeat, Lacuna Coil. J'avais remplacé Megadeth, mais bon, je sais qu'il y a plein de tirs des roches. Mais non, j'assume. J'assume, j'aime pas Megadeth. Puis c'est pas une question de. Mais Dave, t'es un parfum! Il n'y a pas de ça, là.
Non, moi, je les aime bien. Ça m'a pris du temps à les découvrir, mais je les ai surtout découverts en show. Puis là, quand je les écoute en disque, musicalement, ils sont. Dave Mustaine est vraiment incroyable.
Ouais, c'est vocalement qu'il est pas. Qu'il aurait dû prendre un autre chanteur, ou je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec son vocal. Mais justement, je me concentre sur les autres êtres humains.
Il a demandé à James de chanter pour lui. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi, Heidi. C'est le vocal, la faiblesse. Moi, c'est ça qui me rebute, je pense, le plus.
On s'habitue. C'est sympathique, Dave.
Ben, une chance que Dave Mustaine, tu sais, il boit et il fume à côté, parce que sinon, probablement qu'aujourd'hui, Megadeth ressemblerait à Night Flight Orchestra, là. Parce que Dave, il essaierait de chanter clean et...
Mais là, ils sont supposés être en studio, fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Mais c'est ça, en parlant de Megadeth et Metallica, pour le prochain bloc, ben justement, on célèbre ces temps-ci le 30e anniversaire de l'album Metallica de Metallica.
Oh, je suis tellement vieux.
Plus communément connu sous le Black Album, à cause de la couverture assez sombre.
Oui, parce qu'il y a du monde qui ne savent pas qu'il y a un serpent sur la pochette, puis le même serpent qu'Éric Lapointe.
C'est vrai. Le gros spécial du 30e anniversaire du Black Album, ils sortent... honnêtement, je ne sais même pas tout ce qu'il y a dans le package, je n'ai pas trop regardé. Il y a des versions studio, il y a des lives, il y a des... Je pense qu'il y a comme 50 bands qui font des reprises. T'sais, on parlait la semaine passée qu'on aurait pu meubler 3 émissions de reprises de Metallica, ben... Probablement qu'on pourra en faire 3 autres avec les reprises qu'ils vont mettre là-dessus.
Ouais, je sais, il y en a beaucoup sur la scène mainstream. Il dit le fameux cover de Miley Cyrus. Je savais pas qu'elle a fait un cover de Metallica, mais ça m'intéresse pas tant. Là, veux dire,
ouais.
Le 30e anniversaire du Black Album, c'est le fun. À un moment donné, t'sais, donner plein de trucs plus ou moins pertinents autour, je sais pas. À qui tu fais vraiment plaisir?
Quelque chose qui est intéressant qu'ils ont fait, par contre, c'est un podcast. On va vous référer à un autre podcast. C'est en sont leur 2e épisode. Ils font puis, tu sais, l'histoire du Black Album, je pense que c'est assez bien connu de la communauté métal. Mais non, c'est ça, ils vont quand même dans le détail. Ils parlent un peu de trucs de production. Fait que, quand même intéressant, le podcast. Puis c'est eux-mêmes qui parlent. Il y a une petite animatrice bizarre, mais... Il y a toutes sortes d'intervenants, fait que c'est bien monté, c'est le fun à écouter. Y en a-t-il de vous qui êtes anti-Black Album? Ça circule des fois. Y a-t-il un débat à avoir ici?
Ben moi, je comprends pas pourquoi être anti-Black Album. En fait, le Black Album, c'est probablement le premier album, entre parenthèses, metal que j'ai entendu de ma vie. Je vais avoir 9-10 ans, ça a circulé. J'ai eu une copie. J'écoutais ça, puis je trouvais ça cool. Fait que, tu sais, le Black Album est une bonne introduction au metal. Puis moi, j'ai pas mon dire si ça t'amène à écouter Metallica et ça t'amène à aller écouter ce qu'ils ont fait avant, qui est beaucoup plus metal. Tant mieux, mais je suis vraiment pas, je suis pas contre. Puis ça m'a pas fait chier. Puis pas.
Je pense que toutes les portes sont bonnes à emprunter, je veux dire, pour aller vers un style. C'est que si tu découvres le métal grâce à Metallica, tant mieux. Ça a été avec le Black Album aussi. Je suis d'accord. Moi également, j'avais l'album. J'aimais mieux Nirvana, par contre, à l'époque, que Metallica. Mais j'écoutais pas beaucoup de musique non plus à l'époque. J'écoutais la cassette de Rock et Belles Oreilles aussi beaucoup. Ça vous donne un peu le gauge de qu'est-ce que j'écoutais. Là. Pourquoi chanter?
Mais J'ai parlé avec des vieux routiers à un moment donné qui disaient « Ah, nous autres, on est allé chercher ça, le Black Album, on a mis ça dans le char, on avait foxé nos codes pour ça, puis là, j'écoutais ça, puis finalement, tu sais, t'écoutes, puis c'est le Black Album, je comprends que si t'arrives de ce qu'il y avait avant, oui, t'es déçu en écoutant ça. »
Ben, côté production, t'étais pas déçu, t'étais content parce que c'était une grosse marche au-dessus d'Injustice, là, on se fera pas de cachette.
Ah oui.
Mais ouais. Oui, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquaient et tout, mais tel cas, ils s'étaient coupé les cheveux à l'époque.
Mais pas pour le Black Album.
Ça, c'est pour après. Load.
Ah, c'était même pas pour cet album-là. Ah, je pensais que c'était pour cet album-là.
Dans Load. Ouais. Ben, je pense que le Black est quand même assez accepté, quand même, là, comparativement à Load puis Reload. Mais c'est sûr que. Puis c'est ça, je trouvais un peu bizarre dans le podcast. Il parlait aussi de l'époque après Injustice for All. Il dit c'est l'album duquel ils se sont le plus écœurés, dans le sens que. Il avait envie de passer à autre chose, puis tu sais, il avait envie de vraiment raccourcir leurs pièces, puis faire ça plus punché. Fait que, tu sais, ils ont fait un. T'sais, ça a quand même bien sorti, là, ça, il faut le dire, côté production. C'est drôle parce que c'est Bob Rock qui disait qu'il serait comme pas capable de répéter le son de guitare de James Hetfield du Black Album. Ça leur a pris comme une semaine à mettre des patentes une après l'autre. Tu sais, à l'époque du hardware, là, avec des fils partout. Fait qu'ils ont gossé une semaine pour avoir le son qu'ils voulaient, puis voilà, c'était ça, ils ont enregistré, puis c'est fini.
Ça a influencé beaucoup de groupes. Je veux dire, regarde, Nickelback, on en parlait tantôt, sans Metallica, Nickelback n'hésiterait pas. Volbeat, ouais. Plus sérieusement. Mais tu sais, plein de groupes, là. Tu sais, je pense que
ben oui,
le Black Album, même s'il a été rejeté par une grosse partie métal à l'époque, je suis convaincu que tous les nouveaux fans que le Black Album ont eu, ils s'imaginaient tous jouer de la guitare, jouer du drum avec Metallica, puis ils faisaient du air guitar en masse, là.
Ouais, fait que, bon, on va aller écouter trois pièces du Black Album. J'ai essayé d'en mettre des un peu moins connus. C'est pas évident avec le Black Album.
Ça existe,
Album.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais au moins, t'as pas mis ceux qui jouent à la radio à côté. Puis ça, c'est les versions refaites?
Non, c'est les versions sur Spotify, ils disent juste remasterisé. Je pense qu'ils ont ressorti tout leur album remasterisé. Je sais pas trop ce que ça veut dire.
OK.
Le son est plus beau.
C'est pas encore les remakes. Je pense que leur box sort le 10 septembre. Fait que allez vous pitcher là-dessus si vous voulez. Mais ça, c'est les pièces originales. Donc, puis curieusement, j'ai pris trois pièces un peu moins connues. Bon, dans les 30 000 écoutes sur Spotify environ. Mais curieusement, les pièces que j'ai choisies, c'est celles qui ont été composées par Hetfield, Ulrich et Amit. Dans le fond, il y a quatre pièces qui sont créditées à ces trois-là dans l'album. Enter Sandman, Unforgiven, mais aussi Through the Never, la première qu'on va écouter, et Of Wolf and Man, du Black Album. Donc, on écoute ça. Succès souvenir, 30e anniversaire. Au lutin de l'enfer. Et c'était My Friend of Misery. Je disais qu'il y avait quatre pièces créditées à Hetfield, Ulrich et Amit. Toutes les autres, c'est Hetfield, Ulrich, sauf My Friend of Misery, qui est crédité aussi à Jason Newsted. Alors, une pièce que j'aimais bien quand je jouais de la bass à l'époque du fin secondaire cégep là, avec le petit solo de bass qui est quand même très bon là, avec le quand la guitare embarque. Là, donc, My Friend of Misery.
Que Jason vit sur les royautés de cette tonne-là.
Oui, il a essayé une carrière solo avec plus ou moins de succès, je pense.
Mm-hmm. Mais il était dans Voivod un certain temps également. Ouais. Après son départ de Metallica, il avait rejoint Voivod.
Ouais.
Il jouait avec Ozzy aussi, il me semble.
Ah, ça, je savais pas.
Puis il mangeait une crème glacée au Dairy Queen les mardis aussi.
Ouais, si tu voulais aller faire signer ta base, tu y payais une petite molle, puis il restait là jusqu'à temps qu'il pogne la diarrhée après ça, là, c'est sûr. Que...
Une petite molle, ben, c'est trempé dans le chocolat belge, là, c'était ses préférés. Mm-hmm.
Ouais, mais tu sais, on s'en dingue. Quand t'es rendu à ta quatrième base de signer dans ta soirée, le petit carnet à un moment donné. Et puis il était tolérant au lactose, notre petit Jason, là.
Hein?
Il accepte pas de signer n'importe quoi. T'sais, ça prend absolument une base. Mm-hmm. Il signera pas une feuille.
Ouais, puis le modèle là, en plus qui tient. Là. Une base générique Yamaha, je crois. Non.
T'sais, t'arrives avec ta Flying V, tu y as mis des cordes de base. Là. Non, non, non. Il est pas dupe. Là. Il sait que c'est une guette. Là.
Ben, Jason Newsted, d'ailleurs, je pense que c'est un de ses problèmes dans Metallica, c'est que c'est une diva. On se prend pas de cachette.
Une diva? Alors, c'était le souffle-douleur ouais, du band au début.
Mais non, ça c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire quand. Ben, c'est parce qu'il était tanné de son comportement de diva. Tu sais, il allait jouer dans une place, puis lui, il prenait tant de paires de bas blancs pour faire son show, des pics de guitare pour gaucher, t'sais, un paquet d'affaires la main, c'était toujours des excentricités. Puis ça, les mardis, il prenait ses journées off, c'était dur de partir en tournée. Mardi, non, Shane au Dairy Queen. Fait que le groupe était tanné, c'est pour ça qu'il a tombé le souffre-douleur, mais à la base, James, c'est ça. C'est un petit peu tannant, là.
Il était droitier, mais il voulait quand même un pic de gaucher, c'est juste pour écœurer.
Ouais, ben ça donnait du style, tu sais, il jouait à l'envers.
Mm-hmm.
C'est ces pics-là qui pitchaient dans la foule à la fin.
Mm. Ben, il paraît que, dans le fond, le monde qui recevait, il y avait une puce, dans le fond, électronique dedans. Puis lui, après les shows, il envoyait ce monde à aller rechercher parce qu'il voulait récupérer ses. Ça coûtait cher, un peu comme les rondelles de hockey dans les années 90 à la Fox, avec des traits de couleurs en TV, là. Tant que la pote était dans les foules. Non, il y avait un gars qui allait la rechercher puis t'en donnait une vraie, là. Mais bref, c'est pareil avec les pics de Git de Jason Newsted.
Il y avait des tracers d'un pic.
Moi, j'aime ça. Tu vas voir un show, tu te fais accoster à la sortie. Ah, t'as un pic, toi? Ouais, on va la reprendre. OK.
Il y en a qui l'avalaient pour... tu peux pas le reprendre. Il va falloir t'attendre au lendemain, c'est absolument...
Okay. Ouais, ils t'ouvrent sur
les
place,
autres, je pense qu'ils suivaient d'une bus en arrière. Ils les amenaient en tournée. Puis non, vous allez finir par récupérer ça, on l'a récupéré.
C'est le truc, tu veux suivre Metallica en tournée, avale les pics qui pitchent dans la foule.
Le tracer ne ment pas.
Non.
Qu'est-ce que.
Il fait ça encore cette séance d'autographe? Attends, me demandais, il fait ça encore cette séance d'autographe au Dairy Queen ou c'est fini ça, là, depuis qu'il est avec Voivod? Je pense que c'était juste de quoi qu'il faisait
ouais,
au Québec.
C'est dans le temps qu'il était avec Voivod, là.
Ouais.
Dans le temps qu'il était avec Voivod, j'imagine que Voivod sont encore dans le coin du Saguenay ou du Lac ou d'où ils viennent. Fait que là, j'imagine que Jason est allé voir là-bas. Fait que tu travailles au Dev du coin, puis t'as lui qui débarque au Dev, venez chercher un SIPAC, ça doit être quand même cool, là.
C'est lui, il paye en pic de base, il paraît aussi.
Ouais, puis il envoie quelqu'un les chercher après.
Ça me grosse, il dit, ah, merde, il met le racket.
C'est sa propre crypto monnaie, là, les ouais. Pics de base.
J'avoue, c'est bon ça.
Ah oui, fait qu'est-ce qu'on y va avec la nouveauté?
Bien sûr.
Ah oui.
Plus besoin de faire la file au magasin de disques. Les lutins vous présentent la nouveauté de la semaine.
Cette semaine... J'ai déniché une pièce de Technical Blackened Death Symphonic Power Metal. C'est comme ça que le style est décrit, fait que ça l'a accroché mon attention. C'est le band Wizard Throne qui ont sorti leur tout premier album l'année passée. En fait, ils ont été formés en 2020, mais l'album est récent, ça date. Ben évidemment, c'est une nouveauté. Fait que c'est un mishmash qui me faisait un peu penser à, comme tu sais, du Children ou Winter Sun, c'est du début des années 2000 un peu. C'est le clavieriste de Hellstorm qui est là-dedans. Mais ça finit par sortir que c'est lui parce que c'est encore des gens un peu anonymes. Le guitariste s'appelle Xaviculus Bell. Un guitariste s'appelle Archistrategos Barber. Le claviériste Hyperiax Bose et le drummer Wizard Throne Brown. Alors, ce sont évidemment
c'est correct des noms de même dans ce style-là.
Ouais, c'est ça.
T'sais, Lost Horizon, c'est des experts dans ça. Tu sais, regarde, Dimmu Borgir, tu sais, Chagrat, là, c'est pas son baptisteur, là, je m'appelle pas Chagrat dans la vraie vie. Là.
C'est pas comme Ultimate Warrior qui va te changer son nom pour Warrior.
La police l'arrête. C'est quoi votre nom, monsieur? Warrior. The Warrior.
Ouais, fait que, ouais, Wizard Throne, c'est une bonne production quand même. Ils ont mis le paquet, puis c'est assez intense. Puis la thématique de l'album, c'est ça. Là, c'est des galaxies perdues de magiciens wizard. Fait que c'est rigolo.
Donc, c'est ça. Fait qu'on vous abandonne pour cette semaine, chers auditeurs. N'oubliez pas de venir nous suivre sur les plateformes Instagram, Facebook, YouTube. On poste des trucs une fois de temps en temps. Là, dire, on fait pas ça 40 heures semaine, là, désolé. Pas encore un jour peut-être, mais pas pour l'instant. Il faut facile à trouver, les lutins de l'enfer.
Il y a juste nous autres.
Allez où ce qui fait chaud.
Alors, sur ça les lutins... Santé!
Alonso!
Vodka!
Ce sont les lutins de l'enfer!